une journée de préparation, de méditation, d'approfondissement aussi de la connaissance de l'Esprit Saint. Et on est en train de vous distribuer une feuille. Le thème de notre rencontre ce matin, ce sera de méditer cette prière « Viens Esprit Saint, Créateur ». Viens en nous, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles. Vous n'avez vu il n'y a pas très longtemps que lors du conclave, les cardinaux rentrent dans la chapelle Sixtine en chantant ce « Viens Esprit Créateur ». Ils le chantent en latin, mais comme moi, vous n'êtes sans doute pas très doué en latin, donc j'ai mis dans le cadre le texte français. Mais ce chant latin est très connu. Il est chanté aussi aux ordinations des prêtres, par exemple. Si vous venez le 30 juin, il y aura l'ordination de deux prêtres à la cathédrale, à 15h30, le dimanche 30 juin. Eh bien, vous verrez, à un moment dans la célébration, avant l'imposition des mains, on chante ce Veni Creator Spiritus. Cet hymne, et je vous l'ai marqué sur la feuille qui est entre vos mains, cet hymne a été composé au 9e siècle. Et son auteur est probablement quelqu'un qui s'appelle Raban More, qui était abbé d'une abbaye bénédictine de Fulda, en Allemagne, puis qui a été archevêque de Mayence, et qui a vécu entre la fin du 8e et le début du 9e siècle. Il était très érudit et cultivé, grand connaisseur des pères de l'Église, et il compte parmi les plus grands théologiens de son temps. Et les paroles de cette prière, « Veni Creator Spiritus », contiennent vraiment la fine fleur de la révélation biblique et de la tradition patristique concernant l'Esprit Saint. Vraiment, c'est une sorte de condensé, de résumé de l'ensemble à la fois de la révélation biblique et aussi de la tradition patristique concernant l'Esprit Saint. Alors c'est important quand même de nous pencher sur cette prière, et je vous invite peut-être après cette journée, déjà je vous donne une sorte d'objectif, après cette démarche qu'on va faire aujourd'hui, les uns et les autres, je vous invite à reprendre cette prière, vous n'aurez qu'à la découper dans la feuille ou la recopier sur autre chose, et vous en servir assez quotidiennement pour rappeler l'Esprit Saint, de sorte à la connaître dans quelques mois à peu près par cœur, et de pouvoir ainsi vraiment en faire une prière quotidienne, qu'elle soit présente dans votre prière. On ne demande jamais assez l'Esprit Saint, on ne prie jamais assez l'Esprit Saint. Il est vraiment le cœur du cœur de notre vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser cette belle prière qui est vraiment un résumé, un condensé à la fois théologique et biblique, théologique et patristique. Et puis, je vous ai mis sur cette feuille une représentation de l'icône que vous avez par ailleurs derrière moi dans le cœur, et qui est une icône qu'on appelle l'icône de la Trinité, et qui a été composée par le moine André Roubleff en 1411, autant qu'on puisse le savoir. 1411, vous voyez, c'est avant même la statue Notre-Dame-du-Chêne qui est de 1494. Et cette icône se trouve actuellement à Moscou, dans une galerie, la galerie Tretiakov. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait que la place de cette icône, originellement, soit dans l'iconostase, soit celle de la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte. Ce serait en fait une icône de la Pentecôte, dont la base, vous le savez bien, c'est Genèse chapitre 18, à savoir Abraham qui accueille les trois anges qui viennent le visiter et qui vont lui annoncer la naissance d'un fils. Et Sarah, qui est derrière la tente, rigole en douce en disant « Tu parles, je suis trop âgé pour avoir un fils. » C'est pour ça qu'on va l'appeler Isaac, Itzak. Ça veut dire « Hillary » ou « Hillary ». Hillary, pas Clinton, mais Hillary, Sarah. Hillary, Sarah, parce qu'elle n'a pas voulu vraiment croire ce qu'on lui annonçait. Et ça, c'est l'arrière-fond biblique de l'icône. Et effectivement, il existe d'autres icônes sur le même modèle, mais où on voit derrière les trois anges Abraham, Sarah, puis les serviteurs qui s'activent pour les servir et leur offrir à manger, puisque Abraham a fait un grand repas en disant, vous allez tout de même vous arrêter chez moi quand même, vous n'allez pas passer comme ça. Et progressivement, donc, elle a été dépouillée d'un certain nombre d'attributs, et puis elle est devenue, à travers ce travail d'Andrei Rublev, l'icône de la Trinité. Et le personnage central, semble-t-il, est celui du Fils, celui qui se trouve placé à sa gauche semble être le Père, tandis que l'Esprit-Saint, donc, par déduction, se trouve à droite. Au-dessus de chacun des personnages, vous avez un petit symbole qui permet effectivement de les reconnaître. Au-dessus du Fils, au centre, vous avez un arbre, l'arbre de vie, l'arbre de la croix. Au-dessus du Père, vous avez une maison, et donc ça nous rappelle la maison du Père. Il y a beaucoup de demeures, dit Jésus, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et à droite, donc au-dessus du Saint-Esprit, c'est plutôt un rocher, une montagne, et qui nous rappelle donc le mont Tabor, la Transfiguration, qui nous rappelle le mont Carmel, Élie, les grandes inspirations prophétiques. Voilà, et puis ce qui est le plus marquant dans cette icône, qui est donc en rapport avec la Pentecôte, c'est cette grande forme de coupe qu'il y a à l'intérieur des deux personnages de gauche et de droite. Vous la voyez, cette grande forme de coupe, non pas la coupe qui est placée sur la table, mais la grande coupe qui se trouve à l'intérieur des personnages de droite et de gauche, et qui donc quelque part nous invite à venir boire à cette source, à ce mystère d'amour qui est la Trinité, qui nous invite à venir recevoir l'Esprit-Saint, effectivement. Le dialogue entre les trois personnages peut être un dialogue qui se rapporte non pas à l'incarnation du Fils. On a souvent dit, voilà, le Fils regarde vers le Père regarde vers le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit regarde vers le bas, vers la terre, et donc c'est pour l'envoi du Fils qui va se faire homme. Il semblerait plutôt que le dialogue intra-trinitaire concerne l'envoi de l'Esprit-Saint, le Fils qui a effectivement vécu l'offrande rédemptrice de sa passion, et elle est représentée par la coupe qui est placée sur l'autel, qui contient, quand on regarde bien, non pas un agneau, mais il semblerait que ce soit le visage du suaire, en fait. En faisant des restaurations, on s'est aperçu que c'était le visage, le mandilion, le visage du Christ qui est dans cette coupe. Donc en raison de l'offrande de sa passion, le Fils demande l'envoi de l'Esprit-Saint au Père. Et le Père regarde vers l'Esprit qui acquiesce et qui lui-même regarde vers la terre, étend la main droite vers le bas en signe d'acquiescement, et va donc venir parmi nous, et c'est la Pentecôte. Et cette icône est donc une icône de la Pentecôte. Voilà, je voulais vous dire cela en introduction pour que vous compreniez mieux pourquoi on a mis cette icône. Enfin, remarquez, on ne s'est pas concerté, ça se trouve bien. Et pour aussi que vous puissiez la prendre comme icône d'appel à l'Esprit-Saint. La démarche que nous allons faire aujourd'hui va donc être en deux temps. Un premier temps ce matin, on va faire une petite réflexion. Quand on aura vraiment trop froid, on va s'arrêter. Et puis, qui a pour but de nous préparer. Et puis cet après-midi, donc, on aura l'occasion, dans des groupes qui se déploieront dans la salle, de vivre une demande de l'effusion de l'Esprit-Saint. Je voudrais dire juste quelques mots sur cet aspect de la journée pour vous dire la chose suivante, c'est que chacun de vous, je ne sais pas combien on est là, mais peut-être 50, 70, chacun de vous, vous pourrez donc à un moment, dans l'après-midi, demander à être renouvelé dans l'Esprit-Saint. Demandez humblement à recevoir à nouveau l'Esprit-Saint, et les frères qui seront dans les groupes, on a déjà préparé 2-3 personnes dans chaque groupe qui seront plus expérimentées, plus habituées, les frères qui seront dans le groupe prieront avec vous pour demander cette grâce du renouvellement dans l'Esprit-Saint. Ce n'est pas une prière des frères habituelle où vous demanderiez une grâce je ne sais pas, vous avez un problème de santé, vous voulez demander une grâce de guérison, par exemple, bon, c'est très bien, je vous encourage à le faire, mais ce n'est pas le but de la démarche que l'on fera cet après-midi. Vous avez un sérieux problème dans la famille, vous demandez une prière d'intercession pour que le Seigneur vraiment envoie son esprit de communion, etc. Certes, il faut vraiment le faire, mais ce n'est pas le but de la prière de cet après-midi. Je voudrais bien situer la chose. Le but de la prière de cet après-midi, c'est vraiment de vous offrir pleinement, totalement, à la personne du Saint-Esprit qui déjà vous habite par votre baptême et votre confirmation, qui déjà vous êtes rempli de l'Esprit-Saint, mais vraiment de demander à l'Esprit-Saint de désentraver sa présence en vous, de déployer sa présence en vous, de vous équiper de tous les dons dont vous avez besoin pour votre vie de témoignage dans le monde, de vous sanctifier de façon plus forte, de vous conduire jour après jour de façon plus profonde. Bref, ça suppose cette prière que nous ne soyons pas simplement en train d'attendre que ça tombe d'en haut, là, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer, des fois que ce soit un peu violent, à la Pentecôte, il y avait des langues de feu. Non, vous inquiétez pas, on ne va pas s'amuser à jouer aux apprentis sorciers, c'est pas ça. Il faut que vous participiez, que vous ouvriez votre cœur, c'est très important ça. Il faut que vous demandiez, que vous désiriez, que vous vous livriez totalement au Saint-Esprit. Voilà. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas agir vraiment avec puissance dans nos vies? C'est parce que nous ne lui disons pas suffisamment « Esprit Saint, conduis-moi, Esprit Saint, vraiment, je me laisse complètement à toi pour que je bénéficie pleinement de ta présence. » C'est parce que nous nous replions sur nous-mêmes et nous gardons toujours « J'ajoute 2 plus 1 égale 3, je pose 3, je retiens 2. » Et voilà, il y a toujours une petite retenue quelque part qui fait que le Saint-Esprit ne peut pas agir pleinement. Et cet après-midi, vraiment, il faudra lui donner carte blanche. « Seigneur Esprit-Saint, je me livre à toi, viens m'embraser de ta présence. » Le but n'est pas de ressentir quelque chose. Vous ne ressentirez sans doute rien. Et c'est très bien comme ça. Parce que penser que la chose suivante, que parce qu'on va tomber dans l'esprit, que parce qu'il va y avoir un repos dans l'esprit, c'est une façon nettement marquée qu'on a été rempli du Saint-Esprit, c'est une erreur d'optique. Vous portez des lunettes pour la plupart comme moi, mais c'est une erreur d'optique, surtout avec les verres, comment on appelle ça, progressifs, quelquefois ça flotte un peu. Hein. Non, en fait, quand on reçoit le Saint-Esprit, souvent, le signe de sa présence, c'est une paix extrêmement ténue qui nous habite. Une paix profonde, extrêmement ténue. Je ne sais pas comment appeler ça d'ailleurs, parce que c'est une expérience très, très particulière. Ça n'est pas du tout violent, c'est extrêmement subtil, et ça nous met dans une paix royale, si j'ose dire. Et ça, pour moi, c'est vraiment un signe de la présence du Saint-Esprit. Mais ça ne fait pas de bruit, il n'y a pas de... Voilà. Et vraiment, c'est très intérieur. Bon, mais peu importe, le Saint-Esprit se manifeste comme il le veut, donc il ne s'agit pas de lui baliser le terrain, il fera ce qu'il voudra. Mais je vous dis ça pour que nous ayons une échelle d'appréciation plus claire, quoi. Il y a, je pense, un certain nombre aujourd'hui d'erreurs et d'optiques sur ce plan-là. Alors, essayons... cet après-midi, quand nous vivrons cette demande d'effusion de l'Esprit-Saint, essayons de nous livrer le plus profondément possible à sa présence, en demandant vraiment qu'il nous remplisse, que nous soyons baptisés dans sa présence, en acceptant d'être plongés dans sa présence, en acceptant que les frères prient pour nous, en acceptant aussi de recevoir des charismes, des dons, qui sont multiples. Il n'y a pas que les dons, prière en langue, prophétie, etc. Bien sûr qu'il y a ces dons, on peut en profiter pour éteindre nos téléphones, et bien sûr qu'il y a ces dons, mais il y a de multiples charismes, vraiment. Donc les charismes ne sont pas des dons naturels. On peut avoir un don naturel pour faire de la musique, c'est très bien, mais ce n'est pas un charisme ça. Un charisme, c'est un don du Saint-Esprit. Un don naturel, on peut le perfectionner à force de travail, mais un charisme, on ne va pas le perfectionner, on va simplement s'habituer à sa présence et à son exercice, mais c'est vraiment un don du Saint-Esprit. Un don du Saint-Esprit. Donc c'est pas pour nous, c'est pas parce qu'on est plus saint que quelqu'un d'autre, mais c'est pour l'Église. Ça repose sur nous, ça vient en nous, ça nous est donné à nous ou à plusieurs autres personnes, mais c'est pour le bien de l'Église. C'est pour que ça soit partagé à l'Église, vous voyez. Et il ne faut pas être saint pour recevoir des charismes. Ça, c'est encore une erreur d'optique. Il ne faut pas être saint. En revanche, si l'on reçoit un charisme fort, il est nécessaire de se sanctifier pour assurer l'exercice du charisme. Et les drames que nous avons vécus ces dernières années dans le renouveau charismatique avec un certain nombre de fondateurs de communautés qui ont dévié et qui sont partis dans les décors, c'est dû, je pense, avec une relecture, c'est dû à une sanctification insuffisante pour pouvoir supporter le poids d'un charisme assez public. Quand vous avez un charisme de guérison, un charisme de parole de connaissance, un charisme de prophétie, c'est quelque chose qui vous met en avant dans l'assemblée et qui risque effectivement d'entraîner des tas de tentations concernant l'orgueil, etc., etc. Et donc si on ne se sanctifie pas profondément, eh bien on risque effectivement de partir un peu dans les décors. Donc il n'y a pas besoin d'être saint pour recevoir des charismes. En revanche, quand on reçoit des charismes, il faut se sanctifier pour aider à ce que leur exercice soit pleinement conforme à la volonté de Dieu et le plus pur possible. Mais demandez les charismes, demandez ce que le Seigneur voudra vous donner, peu importe. Vous pouvez demander ce que vous voulez, mais enfin, voilà, il faut être là encore très très disponible à ce que Dieu veut faire et qui, d'une certaine façon, ne nous regarde pas parce que c'est lui qui est Dieu. Voilà. Est-ce que c'est mieux situé comme ça, la démarche qu'on va faire cet après-midi? Voilà, donc dès qu'on se mettra cet après-midi, on commencera, parce que sinon ça risque d'être trop long et de nous emmener trop loin au point de vue du temps. Donc il ne faudra pas trop tarder dans l'après-midi à commencer cette démarche. Alors ce matin, je vous propose de regarder cette prière. Viens Esprit Saint Créateur, viens en nous Esprit Créateur. Je voudrais dire d'abord que... Alors vous avez le texte, vous allez pouvoir écrire dessus si vous voulez, si vous avez un crayon, peu importe, mais chacune des strophes a un contour particulier. Chacune des strophes a un contour particulier. Vous voyez la première strophe, on va la lire: « Viens en nous, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. » Et vous voyez qu'apparaît tout de suite, à l'évidence, deux fois le mot « créateur » et « créé ». Donc l'Esprit Saint est envisagé au niveau de la création, de son action dans le monde, son action d'Esprit Créateur dans le monde et dans l'histoire. Et vous voyez qu'il y a aussi trois mots qui ressortent: « viens, visite, emplis ».« Viens, visite, emplis ».« Viens », c'est vraiment un appel au Saint-Esprit. Visite, nous lui demandons vraiment d'entrer en nous, dans nos âmes, et empli, nous lui demandons de nous remplir pleinement de sa présence. Et il y a le mot grâce qui vous renvoie tout de suite plutôt à la rédemption aussi déjà. Il est mis là comme en attente. Vous savez, c'est composé de façon très fine, très ciselée. Et le mot grâce ici nous envoie plus à la rédemption, au sacrement, voilà, empli de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Voilà donc une strophe qui parle de l'action de l'Esprit-Saint dans le monde et dans l'histoire. La deuxième strophe concerne plus l'action sanctifiante de l'Esprit-Saint dans l'Église. Toi qu'on nomme Paraclet, et vous avez le mot ici qui va désigner l'Esprit-Saint personnellement comme personne Paraclet. Il n'est pas une énergie impersonnel, il est une personne qui a un nom, Paraclet, don suprême de Dieu, source vive, feu, amour, onction spirituelle. Tous ces mots sont juxtaposés comme pour préciser le contour de l'Esprit Saint, mais sous l'aspect de son action sanctifiante et éclairante dans l'Église, avec des mots qui renvoient évidemment à l'Évangile, à la Bible, le mot don. Prenez Saint Jean, chapitre 15, 16, le mot don, ceux que tu m'as donné, Seigneur, etc. Le mot don ne cesse de revenir. Jean-Paul II appelait l'Esprit Saint la personne don dans son encyclique Dominum et Vivificantem de 1986. La personne don. Et puis, source vive ou eau vive, fons vivus en latin, eau vive, source vive. Jean chapitre 4, la Samaritaine, hein, l'eau que je te donnerai deviendra en toi source de vie éternelle. Feu, la Pentecôte. Amour, la définition peut-être la plus précise de l'Esprit Saint, onction spirituelle. Saint Jean dans ses lettres dira l'onction demeure sur vous. On va revenir sur tout cela. Mais voyez ici, on essaye de mieux saisir la personne de l'Esprit Saint. Puis vous avez une troisième un troisième paragraphe maintenant, qui se rapporte plus à l'action charismatique de l'Esprit Saint dans l'Église, multiforme dans tes dons, tout septiformis munere, hein, aux sept dons, mais multiforme, hein, il y en a plus que sept, hein, doigt de la droite de Dieu, on va y revenir, qui évoque la puissance, hein, promesse solennelle du Père, la promesse est pour vous dans les Actes des Apôtres, hein, promesse solennelle du Père. Donc, ça nous tourne vers l'espérance. Tu mets la parole sur nos lèvres, donc tous les charismes en relation avec la parole, prière en langue, prophétie, parole de connaissance, annonce forte du kérigme, du cœur, du noyau de la foi. Hein, ma parole, dit saint Paul, n'était pas une parole humaine, mais pleine de puissance, parole dans l'esprit. Voilà, c'est plus en rapport avec l'aspect charismatique, l'action charismatique de l'Esprit-Saint dans l'Église. La strophe suivante appelle l'Esprit-Saint à agir, comme au début, vient en nous, visite, emplit, ici nous disons, mais, répand, fortifie. Vous voyez, ces trois verbes appellent l'Esprit-Saint à agir concrètement dans notre vie, met ta lumière dans nos esprits, répand l'amour en nos cœurs, fortifie par ta puissance éternelle l'infirmité de notre corps. Et vous avez les trois étages ici qui nous sont rappelés, l'esprit ou l'âme, appelez comme vous voulez, le cœur et puis le corps. L'Esprit Saint désire agir profondément sur la totalité de notre personnalité, hein, aussi bien dans notre esprit pour y déposer la lumière de l'intelligence des choses divines, le don de science, de sagesse, de connaissance, aussi bien dans le cœur pour y déposer et déployer la charité, répand l'amour dans nos cœurs, aussi bien sur notre corps pour nous fortifier dans nos maladies, nous guérir dans nos maladies, mais aussi déjà nous remplir de la puissance de la résurrection. Chaque fois que nous communions, nous préparons notre résurrection à venir, nous mangeons déjà notre résurrection, et nous demandons à l'Esprit Saint vraiment de fortifier l'infirmité de notre corps. Et puis nous continuons encore à la strophe suivante concernant deux aspects plus particuliers, qui est le combat spirituel, repousse l'adversaire au loin, donc sans tarder donne-nous la paix, la paix qui est au terme de ce combat qui nous libère de l'emprise des tentations, hein. Le combat spirituel. Et puis, un autre aspect très important, c'est le discernement des choix à faire dans notre vie de tous les jours. Avec toi, notre guide, nous éviterons tout mal. Voilà, conduis-nous, Esprit Saint, et donne-nous la lumière du discernement dont nous avons besoin. Donc, voyez, au début, la strophe précédente, nous demandions lumière, amour et force, et ici, nous lui demandons une grâce pour deux aspects qui sont effectivement des lieux de combat et de transformation constamment, où nous avons besoin, vraiment besoin de lui, c'est le combat spirituel contre les puissances adverses, et c'est aussi les choix à faire constamment dans nos vies, entre le bien et le mal, et entre notre propre volonté et la volonté de Dieu. Enfin, la dernière strophe est une sorte de doxologie, mais de conclusion théologique qui nous situe l'Esprit Saint comme celui qui va nous introduire dans la vraie connaissance du Père, donc qui va mettre en nous vraiment un esprit filial, que nous soyons fils, que nous puissions dire Abba en vérité, fais-nous connaître le Père, fais-nous connaître aussi le Fils, Jésus l'a bien dit, hein, il prendra de mon bien pour vous le donner, donc vraiment c'est... il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vraiment, l'Esprit Saint nous fait entrer dans une connaissance beaucoup plus profonde de Jésus. Et nous avons besoin de lui demander que nous ne soyons pas myopes sur Jésus, hein, malgré nos lunettes, mais vraiment que nous puissions le connaître en vérité. Et puis, que nous croyions vraiment en lui, Esprit Saint. Fais-nous croire en toi. Fais-nous croire en toi, en ta présence, en ta puissance, toi qui es l'Esprit et du Père et du Fils, vraiment. Que la Trinité soit véritablement notre foi profonde de chrétien. Vous ressentez la densité de cette prière. Alors je vous ai mis à côté là, le chant que nous sommes habitués à prendre dans nos carnets de chants habituellement, qui est la liturgie chorale d'André Gouze, mais voyez que la traduction est encore différente. Bon, celle qui est au centre, c'est pas tout à fait la traduction liturgique française officielle, c'est la traduction donnée par le Père Cantal à Messa dans ce livre que je vous invite beaucoup à lire, « Viens Esprit Créateur ». Viens Esprit Créateur, ceux qui sont dans les groupes de prière, je vous envoyais pendant 3 ou 4 mois chaque semaine un extrait de l'un des chapitres. Il y a 23 chapitres. Il a été publié aux éditions des Béatitudes. Viens Esprit Créateur. Alors c'est un livre de théologie, hein, c'est un livre d'approfondissement théologique, donc c'est pas forcément tout à fait facile à lire, mais vraiment on y a beaucoup de profit quand on le travaille et qu'on le lit. Si vous voulez un document plus profond. Alors je vais reprendre avec vous chacun des paragraphes rapidement pour un approfondissement, de sorte à nouveau à mieux saisir la richesse de l'appel à l'Esprit Saint qui est contenu dans cette prière, qui est une prière du 9e siècle, qui est une prière traditionnelle d'appel à l'Esprit Saint, qui est presque la prière officielle de demande de l'Esprit. Je veux vraiment sortir d'un Esprit Saint charismatique trop étriqué. Voilà, on a souvent une conception du Saint-Esprit à partir des expériences qu'on peut faire à l'intérieur du renouveau charismatique, mais c'est une vision peut-être trop étriquée, car on n'a pas attendu cette nouvelle visitation du Saint-Esprit, cette nouvelle mission invisible du Saint-Esprit qui est le réveil actuel. Des réveils, il y en a eu tout au long de l'histoire de l'Église. Et la théologie du Saint-Esprit n'a cessé de s'approfondir tout au long de l'histoire de l'Église. Donc vous comprenez bien, on se situe à un point X dans l'histoire. Grâce à Dieu, nous avons un réveil dans l'Esprit Saint dont nous avons bénéficié, mais on voit bien que ce réveil dans l'Esprit Saint, ben, c'est pas tout, parce que si on fait pas très attention, ben, on part dans les décors. Il y a quand même eu pas mal de dégâts. Quand on regarde 40 ou 50 ans après, hein, il y a quand même pas mal de dégâts et pas mal de problèmes. Mais voilà, nous avons besoin de resituer cette expérience que nous avons faite dans les années 70, 80, 90, et maintenant encore, dans le cadre plus large de la connaissance du Saint-Esprit qu'a l'Église depuis les origines. Et non pas de faire un saut de cette expérience des années 70 vers l'Église primitive en disant « Oh, comme c'est bien, c'est exactement comme la Pentecôte dans les Actes ». Sûrement, mais en même temps, il y a aussi tout le vécu et toute la tradition de l'Église depuis 20 siècles. Et il ne faut pas les enjamber, il faut puiser. Et le père Cantalamessa, qui lui aussi est un fin connaisseur des pères de l'Église, ne cesse de donner des citations des pères, avec les références en notes, pour mieux saisir la densité extraordinaire de cette prière. La première, le premier paragraphe, c'est donc un appel à l'Esprit Saint qui globalement est envisagé comme créateur et comme celui qui est vraiment capable de nous recréer. Il est à l'origine à la création du monde. Souvenez-vous, dans la Genèse, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Donc il y a la mention au-dessus de ce chaos, de ce tohu va-bohu en hébreu, tohu-bohu original, hein, le chaos original où Dieu crée. Il crée par sa parole, le Verbe, et par l'Esprit Saint. Saint Irénée, évêque de Lyon, en 177, dira « Le Verbe et l'Esprit sont les deux mains du Père, les deux bras du Père dans la création. » Voilà une façon d'envisager les choses. Mais ça nous dit bien que l'Esprit Saint a une part extraordinaire dans la création du monde, il est créateur, et dans la recréation, dans la rédemption. Alors, nous confessons notre faiblesse, nous disons « Esprit Saint, viens au secours de notre faiblesse. Toi qui as rempli Jésus de puissance, Actes chapitre 10, c'est comme ça que Pierre dit, il était rempli d'Esprit Saint et de puissance, en parlant de Jésus, Actes 10, 38. Toi qui l'as rempli au Jourdain de ta présence, puisqu'il est retourné en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit, Luc 4, eh bien, Esprit Saint, tu es la seule force véritable qui soutient l'Église. Alors, comme il est dit dans Zacharie, ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Zacharie 4,6. Non par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Viens, Esprit Saint, et dans la Bible, ainsi, il y a sans cesse un appel à l'Esprit, dont le plus clair peut-être se trouve en Ézéchiel 37, 9. Ézéchiel 37, 9, tu diras à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur Yahvé, viens des quatre vents, Esprit, viens des quatre vents, Esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Ézéchiel 37, 9, c'est sûrement l'appel à l'Esprit Saint le plus fort, le plus clair qu'on ait dans toute la Bible. Si vous faites une recherche avec un logiciel sur Internet, vient Esprit Saint, vous verrez que dans les occurrences qui sont mises, c'est sûrement la forme la plus nette. Donc on a une base biblique, si vous voulez, à cette prière qui est forte. Et nous disons à cet Esprit Saint qui est le Créateur, mais aussi l'auteur de la nouvelle création, qui est Dieu lui-même, hein, puisqu'il a un nom ici, Créateur, Esprit Créateur. Il n'est pas appelé énergie créatrice, mais Esprit Créateur. Il s'agit de Dieu lui-même, non pas quelque attribut de Dieu ou une vague énergie divine. Alors, dans la confiance, nous choisissons l'attitude de créature devant le Créateur. Et vraiment, nous lui disions, viens remplir de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Nous sommes créatures, tu es créateur, viens achever ta création et viens vraiment renouveler aujourd'hui les prodiges de la première Pentecôte. Quand on lit dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a trois verbes, trois images qui expriment la venue de l'Esprit Saint en nous, ou bien par exemple être baptisé dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire plongé, ou bien être revêtu de l'Esprit Saint, l'image du vêtement, Luc 24, vous serez revêtu du Saint-Esprit, ou bien être rempli du Saint-Esprit, image du vase, hein. C'est le terme le plus utilisé, rempli du Saint-Esprit. Jésus revient du Jourdain rempli d'Esprit Saint. Élisabeth, Jean-Baptiste, le petit Jean-Baptiste, sont remplis d'Esprit Saint. Et à la Pentecôte, tous furent remplis d'Esprit Saint. Mais voyez ces trois mots, baptisé, revêtu, rempli, manifeste donc cette action recréatrice de l'Esprit-Saint que nous lui demandons, renouvelle aujourd'hui les merveilles de la Pentecôte. Vraiment, tu es entré avec le Christ dans l'histoire et par le baptême dans notre vie, eh bien, Esprit-Saint, viens, non pas où tu vas te déplacer localement, mais viens nous habiter d'une manière nouvelle, par la grâce. Tu as fait de nous le temple de Dieu, mais viens nous habiter d'une manière nouvelle. Vous voyez, vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit que vous n'aviez pas, vous l'avez déjà, mais il va se déployer en nous de façon nouvelle. Le paragraphe suivant sur l'action sanctifiante et éclairante de l'Esprit dans l'Église, toi qu'on appelle paraclet, paraclet ça veut dire consolateur ou encore avocat, défenseur. Consolateur, vous avez dans l'Ancien Testament, je suis celui qui te console, Isaïe 51, hein. Dans le texte de la traduction grecque, je suis ton paraclet, parakletos en grec. Quand on a traduit de l'hébreu en grec, je suis celui qui te console, on a traduit je suis ton paraclet. Donc vous voyez que le mot est attribué à Dieu lui-même dans l'Ancien Testament. Celui qui te console comme une mère, Isaïe 66, 13. Donc ce Dieu de la consolation, Romains 15, s'est incarné en Jésus. Donc Jésus est le premier paraclet. Jésus est le premier consolateur. Et c'est pour ça qu'il dit, je vous enverrai un autre paraclet. Parce qu'il est lui-même notre premier défenseur, notre premier consolateur. Alors dans cet évangile de Jean, deux choses apparaissent clairement. Le paraclet se définit en fonction de la vérité, et en fonction de Jésus. Les diverses activités attribuées au paraclet dans l'évangile de Jean, c'est enseigner, rappeler, témoigner, convaincre, conduire à la vérité tout entière, annoncer. Donc on voit bien que le rôle principal du Saint-Esprit, il est doctrinal. C'est un rôle d'enseignement. C'est son domaine essentiel. C'est pour ça que Jean va dire qu'il est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Mais ce mot de paraclet est vraiment le titre qui exprime clairement le caractère personnel du Saint-Esprit. Celui que nous accueillons est une personne. Est une personne. On ne fait pas rentrer un invité par la porte de derrière, ou encore par son garage qui est au rez-de-chaussée alors que le logement est au premier. Vous permettez, on va passer par là. Non, on ne fait pas rentrer un invité par le débarras. Il faut qu'on fasse rentrer par la porte principale avec un mot de bienvenue sur la porte. Je dis ça parce qu'au cours de la journée aussi, vous allez pouvoir avoir la possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation. On sera au moins trois prêtres à confesser cet après-midi. Et je vous invite, si vous le pouvez, si vous le voulez, à faire cette démarche au sacrement de réconciliation pour vraiment demander à l'Esprit-Saint de vous purifier pour qu'il habite un cœur pur. On a chanté tout à l'heure quelque chose comme ça. Qu'il faut que notre cœur soit pur pour que nos lèvres puissent bénir. Et que notre cœur soit pur pour que nous soyons habités par cette présence du Saint-Esprit pleinement. Il ne s'agit pas d'enlever le péché pour que l'Esprit-Saint puisse venir, il s'agit de demander à l'Esprit-Saint d'enlever le péché. La rémission des péchés est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, vous comprenez, si nous sommes trop embourbés dans notre péché, cet esprit va avoir du mal à se frayer un passage pour déployer sa présence et nous équiper de ses dons. Donc, voilà. Et puis, une autre chose que l'on pourrait dire aussi sur le mot paraclet, c'est que, au fond, si le Père est le consolateur, le paraclet, si le Fils est le premier paraclet, si l'Esprit-Saint est l'autre paraclet, nous aussi, quelque part, nous sommes des paraclets. Et nous sommes invités à consoler nos frères nous sommes invités à défendre nos frères, à nous faire l'avocat de nos frères persécutés, que sais-je. Il a besoin de nous pour être paraclet aussi. Voilà. Toi qu'on nomme paraclet, don suprême de Dieu, don suprême du Très-Haut. Il est le don de Dieu, mais aussi le donateur lui-même. Il est le grand don de Dieu, c'est vrai. Puis il est aussi le donateur. Et il est le seul à pouvoir faire de notre vie une offrande vivante, comme nous disons dans la prière eucharistique, fait de nous-mêmes une vivante offrande à la louange de ta gloire. Fais de nous-mêmes une vivante offrande à la louange de ta gloire. Eh bien, le Saint-Esprit est seul à pouvoir faire de notre vie une offrande vivante, un don, comme disait Paul dans les Romains, chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. » Voilà la ligne de conduite pour notre démarche d'effusion de l'Esprit. Nous offrir vraiment, pleinement à Dieu, en offrande vivante, et laisser l'Esprit Saint faire de nous une véritable offrande. Nous ne pouvons nous-mêmes donner notre vie et donner notre vie pour nos frères sans une aide spéciale du Saint-Esprit. Esprit Saint, source vive, l'Esprit Saint est désigné ici avec des symboles qui sont tirés à la fois de la nature mais aussi de la Bible. Par exemple, l'eau, le vent, la lumière, le feu, l'huile, le vin. Si on fait la liste des symboles du Saint-Esprit qu'on trouve dans la Bible, le vent, vous l'avez à la Pentecôte, l'eau, vous l'avez à Ézéchiel 47, l'eau qui s'échappe du côté droit du temple, et puis la Samaritaine, etc., l'eau vive. La lumière dans l'intelligence et dans les cœurs. Le feu, à la Pentecôte à nouveau, l'onguent, l'huile de consécration des rois, de consécration du Messie, de nos sacrements. Et puis aussi le vin nouveau. Ce sont les symboles du Saint-Esprit, et ici, premier symbole qui est employé par l'auteur de cette prière, c'est la source vive, l'eau, parce que l'eau est constitutive de toute chose. Elle engendre la vie végétale, la vie animale. Cyril de Jérusalem, évêque de Jérusalem en 350, quand il faisait la catéchèse aux nouveaux baptisés, il ne disait pas des choses compliquées. Il disait « Pourquoi désigne-t-on la grâce de l'Esprit-Saint par le nom de l'eau ?» Il répondait « Parce que l'eau est constitutive de toute chose. Elle engendre la vie végétale et la vie animale. » Voilà. Et donc, l'Esprit Saint est l'eau qui vient du Rédempteur et qui transforme le grand désert de notre vie. Il se jette dans la grande mer morte qui est ce monde de péché et dans la petite mer morte aussi qui est chacun des hommes privés de la grâce pour les transformer en lieux pleins de vie. Seulement, attention, la vie de l'Esprit, l'eau vive de l'Esprit ne se reçoit que de manière volontaire, à la différence de la vie naturelle qui, elle, est involontaire. Mais personne ne peut décider de naître ou de ne pas naître. Toute personne peut décider de renaître ou de ne pas renaître. La vie nouvelle suppose vraiment un acte de foi. Elle s'obtient par l'Esprit qui sanctifie en vérité. Et alors on entre dans cette vie nouvelle de l'eau vive par deux moyens fondamentaux. Les paroles de Jésus, mes paroles sont esprit et elles sont vie, dit Jésus. Et puis les sacrements qui nous permettent de vivre une vie nouvelle. Avez-vous remarqué que, et c'est ça le tragique de l'histoire, quand il y a une fuite d'eau quelque part, ça descend toujours, et ça descend toujours au point le plus bas. C'est épouvantable quelquefois, hein. Quand il y a un tuyau qui casse quelque part, surtout en hauteur, ça va toujours descendre au plus bas. Et si nous recevons l'eau vive de l'Esprit, eh bien, elle va toujours descendre dans toutes les profondeurs de nos blessures pour les visiter, au plus bas de nos péchés. Il faut le laisser aller partout, partout, partout. Et donc, il faut avoir une attitude d'humilité. L'Esprit Saint ne peut remplir sous forme d'eau vive que tout ce qui est en bas, tout ce qui se tient de manière humble et vide de lui-même. Dans l'une des premières hymnes de la Trinité, le Père est appelé source, le Fils est appelé fleuve et l'Esprit Saint est appelé irrigation. Le Père est appelé source, le Fils est appelé fleuve et l'Esprit Saint est appelé irrigation. Et dans la prière de la séquence de Pentecôte avant l'Évangile, la fête de Pentecôte, on dit « baigne ce qui est aride, baigne ce qui est aride ». L'Esprit Saint qui est feu maintenant, un feu. Alors, vous savez, chaque mot a vraiment sa densité. On ne va pas tout relire parce qu'on s'y retrouvera encore ce soir. Donc je vais m'arrêter à un certain moment, mais l'Esprit Saint qui est feu, hein, l'eau engendre la vie, ça c'est sûr, mais le feu la détruit. Donc il y a une espèce de choc de deux symboles qui semblent être opposés l'un à l'autre. L'Esprit crée la vie nouvelle, certes, mais en faisant mourir la vie ancienne. C'est un peu ce qui est dit. Mais on pourrait comprendre aussi que l'eau purifie du dehors, hein, et que l'eau, le feu purifie aussi du dedans. L'eau purifie par le dehors, que le feu purifie aussi par le dedans. L'Esprit est feu parce qu'il est saint. Donc en fait, le mot « feu » ne fait qu'expliciter l'adjectif « saint », « esprit saint ». C'est l'esprit de feu. Saint Basile dit que les péchés sont pardonnés par la grâce de l'Esprit, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Le péché n'est pas d'abord ôté pour laisser place au don de la grâce, mais c'est le don de l'Esprit lui-même qui enlève le péché. Et cette suppression du péché, c'est un processus complexe qui suppose différents passages. Hein. Par exemple, l'Esprit Saint frappe à la porte de notre conscience par le remords. L'Esprit Saint l'ouvre par la confession, l'aveu, très important l'aveu, vous savez, les histoires d'absolution collective dans certaines paroisses où il n'y a plus que ça, ou dans certains diocèses qui sont vraiment très marqués par cet aspect des choses, mais c'est grave, c'est beaucoup plus grave qu'on ne le pense, parce que, en fait, l'Esprit Saint ouvre notre conscience par la confession, par l'aveu, il entre par notre repentir, il libère par l'absolution, il transforme par la justification, il l'enflamme par sa ferveur. Donc voyez, au fond, notre cœur a comme deux clés. Il y a une clé qui s'ouvre de l'extérieur, donc il y a une des clés qui est dans les mains de Dieu, mais il y a une autre clé où ça s'ouvre de l'intérieur et elle est dans nos mains. Et donc, aucun des deux ne peut ouvrir sans l'autre. Par sa toute-puissance, Dieu peut tout faire, sauf une chose, rendre de force un cœur contrit. Rendre de force un cœur humilié. Ça, il ne pourra le faire que si nous ouvrons de l'intérieur, nous, par notre clé personnelle. Et saint Jean de la Croix dit que le feu de l'esprit, la vive flamme d'amour, a deux effets. Elle purifie l'âme et elle renforce son lien d'amour, son amour pour Dieu. Elle renforce son amour pour Dieu. Donc le remède à la tiédeur dans nos vies, ce n'est pas la ferveur. Le remède à la tiédeur, c'est l'Esprit Saint. C'est lui, l'Esprit Saint, qui nous donnera la ferveur. Mais le remède à la tiédeur, c'est vraiment l'Esprit Saint. Un autre mot encore qui est employé, amour. Amour, l'Esprit Saint nous fait expérimenter l'amour de Dieu. L'amour qui est dans la Trinité, l'amour qui est dans l'Église, l'amour qui est dans chaque croyant. L'amour qui est donc communion et joie. Le Père et le Fils ont voulu que nous soyons unis entre nous et avec eux par ce lien qui les unit, qui est l'amour, qui est l'Esprit Saint. Donc, voilà, c'est pas très compliqué à comprendre, mais notre cœur souvent est sclérosé et par manque d'exercice de charité, au fond, il est resté comme atrophié. Et donc, l'Esprit Saint va nous pousser à faire des exercices d'amour. Va nous pousser à... Donc, vous savez, c'est pas inepte de dire qu'à certains moments, nous avons besoin de faire des efforts de volonté pour aimer. de volonté pour aimer, parce que l'amour, ce n'est pas mystico-gélatineux, hein, ce n'est pas un sentiment, une émotion. L'amour, on sait bien, pour être dans la durée, c'est une décision, une volonté. Une volonté, je m'engage à t'aimer, hein, même sans aucun sentiment, sans aucune émotion. Là encore, dans le renouveau charismatique, on risque de faire quelques déviations, n'est-ce pas, quelques dérives, en plaçant l'émotion comme première, alors que c'est la volonté qui manifeste notre engagement vis-à-vis de Dieu, quels que soient nos sentiments, nos transports. Hein. Donc, faire des actes pour aimer volontairement, c'est permettre à notre cœur d'être plus... de développer cet amour en nous. Onction spirituelle, puis on va peut-être s'arrêter après, parce que le temps passe. Comment ? Oui. Onction spirituelle, l'Esprit Saint, ici, est vu sous le symbole de l'huile, de l'onguent, du parfum, qui est donc l'émanation en nous de cette huile. Et ça nous parle des sacrements, ça nous parle de la vie du chrétien. C'est dans l'Ancien Testament une figure de l'Esprit Saint sous la forme d'un événement, c'est l'onction des rois. Hein. Le Concile Vatican II a recommencé, parce qu'il y a eu un grand vide dans la théologie de l'esprit, a recommencé à parler de l'onction, en reprenant donc appui sur Jean chapitre 10, 38, le Seigneur Jésus que le Père a sanctifié et a oint et envoyé dans le monde. Eh bien, Jésus nous fait participer à l'onction de l'Esprit qu'il a reçu. Celui qui reçoit l'onction à l'Esprit Saint comme compagnon inséparable de sa vie, il fait tout dans l'Esprit, dans sa présence, dans son aide. Donc c'est un don de Dieu, cette onction. Ce qui dépend de nous, c'est d'ôter les obstacles qui l'empêchent de se diffuser. L'onction ne dépend pas de nous, mais ce qui dépend de nous, c'est d'enlever les obstacles. Tout ne relève pas de la cesse, ce n'est pas cela, mais ça relève plutôt de la foi, de la prière, de la supplication. Hein. Jésus a reçu cette onction quand il se trouvait en prière. Luc 3, 21. Et Jésus a dit, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient. Donc nous devons demander dans la prière l'onction de l'Esprit Saint avant d'entreprendre une action importante au service du royaume. Mais l'onction de l'Esprit n'est limitée à aucun moment, à aucune catégorie de fidèles dans l'Église. Hein? Si vous prenez un baume, ça existe beaucoup aujourd'hui quand on fait on a un choc, paf, on va se passer un baume. Il y a même des couvents qui font des baumes. C'est vendu fort cher dans les petits magasins, n'est-ce pas, de produits monastiques. Mais voilà, on peut s'enduire d'un baume et d'un onguent qui va délivrer un bon parfum. Et c'est le symbole de la présence dans nos vies et de notre vie chrétienne qui embaume autour de nous. Alors voilà, peut-être je vais arrêter là maintenant le commentaire, c'est bien dommage, hein, d'une certaine façon. Mais je vous rappelle simplement, pour conclure, je vous rappelle que nous étions dans le paragraphe qui concerne l'action sanctifiante de l'Esprit Saint dans l'Église, que le paragraphe suivant, c'est l'action charismatique de l'Esprit dans l'Église, toi qui es multiforme dans tes dons, doigt de la droite de Dieu. Ça nous rappelle Jésus qui dit qu'il chasse les démons par le doigt de Dieu, la droite de Dieu, qui évoque la force créatrice de Dieu. Promesse solennelle du Père, hein, l'Esprit Saint que le Père a promis va venir sur vous, dit Jésus. Mais cet Esprit Saint, nous l'avons reçu, il est en nous, mais nous sommes en attente qu'il déploie sa présence en intensité. Non pas en qualité, car il n'y a pas deux qualités d'Esprit Saint, il y a une seule qualité d'Esprit Saint, il est le seul, mais lorsque nous vivrons dans l'éternité, dans la gloire, et que nous serons saisis par la puissance de la résurrection de Jésus, nous vivrons une expérience d'une nouvelle intensité du Saint-Esprit qui est en nous. Et donc, il est promesse du Père, nous l'avons déjà reçu, mais nous le recevrons à nouveau, et nous ne cessons de le recevoir dans chacune de nos prières d'effusion de l'Esprit-Saint. Tu mets la parole sur nos lèvres, tu nous équipes pour l'annonce du kérigme de l'Évangile et par tous les charismes de parole. Le paragraphe suivant nous parle de l'œuvre de l'Esprit dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre corps. Lumière dans l'esprit, charité dans le cœur, et puis force de guérison dans notre corps. Guérison des maladies, mais aussi guérison par la puissance de la résurrection. Le paragraphe suivant nous parle de l'action de l'esprit pour deux réalités qui croisent nos chemins sans cesse, celle de la tentation de l'adversaire, donc la force pour la tentation, pour avoir la paix intérieure, et puis la lumière du discernement pour être conduit et éviter de tomber dans les pièges du mal. Et enfin, en conclusion, il nous est dit que l'Esprit-Saint est vraiment celui qui est capable de mettre en nous un cœur filial qui nous fait connaître le Père. Il est capable de nous dévoiler pleinement les profondeurs de Jésus, et nous avons besoin vraiment de croire en sa présence, lui qui est l'unique Esprit Saint de l'un et de l'autre. Est-ce que nous pourrions chanter pour terminer ce cantique, mais avec celui qui est à droite, viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens Consolateur.